Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Droit de parole. Donc aujourd'hui, c'est un épisode très excitant pour moi étant donné que j'adore le droit criminel. J'ai la chance d'avoir deux invités, Maître Bastien, procureur au DPCP, puis Émile Demers, membre du comité de droit criminel de l'université. Bonjour messieurs.
Bonjour Maïla.
Bonjour Maïla.
Donc pour commencer, je laisserai vous présenter vous-même rapidement là, une petite présentation.
Ben moi, c'est pas plus compliqué que ça. Émile Demers, j'étais en deuxième année en droit. Je faisais partie cette année du comité de droit criminel et pénal de l'Université Laval. À titre de membre aux événements, on organisait plusieurs activités qui touchent au droit criminel directement. Je suis quelqu'un qui est passionné du droit criminel depuis très longtemps, depuis que je suis jeune. Je rentre au bac, c'était mon idée, c'était de faire ça plus tard. Donc, je pense que je suis bien aligné sur ça, puis je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous.
Eh bien, moi, c'est Lucas Bastien. Je suis procureur aux poursuites criminelles et pénales, mais je suis aussi le porte-parole du DPCP. Alors, procureur depuis une quinzaine d'années, mais avocat depuis 18. J'ai commencé en pratique privée. Contrairement à Émile, moi, au bac, c'est pas le droit criminel qui m'intéressait, mais c'est venu un peu après. Fait que j'ai travaillé en droit civil mes premières années dans un cabinet de Montréal. Puis, je suis finalement devenu procureur de la Couronne en 2010.
Puis, par curiosité, qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée?
À l'origine, quand j'ai fait mon bac en droit, j'avais un intérêt pour les relations internationales. Je me disais, je vais travailler en relations internationales, peut-être faire du droit international. C'est un peu naïvement. Puis, j'avais fait un profil international, mais national, en Ontario. Puis, quand j'étais revenu, là, c'était ma deuxième année, c'était l'hiver. Puis, tout le monde, il y avait comme une espèce de frénésie. C'est la course au stage. Ça prend absolument un stage, sinon tu ne pourras pas être avocat. Puis là, un peu pris de panique, j'ai envoyé des CV dans une vingtaine de cabinets. Finalement, j'ai reçu une offre d'un cabinet de Montréal chez Steichmann. C'était super. J'avais une amie qui travaillait là. Puis, j'ai travaillé là 3 ans comme étudiant, puis ensuite comme avocat. Un autre 3 années. Puis, c'est au barreau. Parce que moi, pendant le bac, les cours de droit criminel, je trouvais ça très théorique. Je trouvais, c'était mens rea, actus reus. J'avais de la difficulté à voir l'application pratique de ça. Puis, au barreau, un de mes profs, c'était un procureur de la Couronne de Québec, René Verrette. Puis les 2 semaines de cours qu'on a eues de ce procureur-là, ça m'a vraiment, vraiment interpellé. J'ai trouvé ça super intéressant, vivant, captivant. C'était vraiment de l'action. Mais j'étais déjà en voie de commencer mon travail d'avocat chez Steichmann. Puis c'est juste 3 années plus tard, j'étais au séminaire de plaidoirie, puis il y avait un juge avec qui j'avais parlé. Puis je trouvais donc que parmi tous les étudiants, mais les avocats des grands cabinets, on avait de la misère en plaidoirie, puis c'était pas naturel. Puis il y avait une fille de la cour municipale de Montréal. Puis elle se trouvait pas bonne, mais elle torchait tout le monde. Mm-hmm. Littéralement, là, elle était super bonne. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, il y a des gens qui plaident tous les jours, puis finalement, c'est comme ça que tu deviens un plaideur. Puis il y avait un juge qui donnait des cours, puis il m'avait dit, hey, t'as-tu déjà pensé que tu pourrais peut-être faire un bon procureur à la Couronne? Puis c'est à partir de ce moment-là que je me disais, ah ben regarde, je pense que ça vaut la peine que je fasse le saut. J'ai appliqué dans le processus, j'ai été pris, même si j'avais 0 expérience en droit criminel à l'époque. Puis ça a été effectivement ce que je m'attendais, une carrière de plaidoirie, de litige incroyable. Fait que c'est pas mal ça.
C'est vraiment intéressant parce qu'il y en a beaucoup aussi qu'on part avec l'idée au bac d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de signer avec le mauvais cabinet ou juste de pas signer au bac, ce qui est très correct aussi. Fait que c'est quand même intéressant de voir qu'il n'est pas trop tard.
Non, effectivement, il n'est jamais trop tard. Puis en plus, nous autres au DPCP, il y a des gens de tous les profils qui joignent. Moi, j'avais un background, j'avais même travaillé en Ontario en fusion acquisition puis en droit minier. Là. Fait que, puis avec le litige commercial, il y a toutes sortes d'habiletés que tu vas chercher qui se transposent comme procureur à la Couronne aussi. Fait que non, il n'est jamais trop tard. Puis même encore, je vois des avocats qui font le switch après 15-20 ans, là, soit qui est en défense, soit qui était dans d'autres types de droits. On a besoin de plein de profils parce qu'on fait toutes sortes de poursuites, on s'attaque à toutes sortes de criminels et d'organisations. Mm-hmm. Fait que tous les profils sont bons. Puis c'est un bon point que tu lèves. Il n'y a pas, tu sais, avoir peur de se tromper. Moi, c'était peut-être un peu la naïveté. J'applique partout, ça me prend un stage. Puis finalement, la vie se place, mais je pense qu'il ne faut pas accepter, il ne faut pas refuser finalement d'accepter les défis et les opportunités qui se présentent à nous.
Bien, c'est vraiment intéressant. Puis, côté couronne puis défense, là, vous avez mentionné que ça arrive des gens de la défense qui viennent dans la couronne ou probablement vice-versa. Oui. Mais ça, mettons, on n'en entend pas vraiment parler. Souvent, on est comme de quel côté tu veux être. Là, tu dois choisir selon tes valeurs, mais c'est pas nécessairement.
Mais effectivement, c'est pas ancré. Tu sais, le travail des avocats de la défense, c'est un travail qui est super important aussi, qui est différent de celui des procureurs de la couronne, mais on s'en va tous quand même dans la même direction. Tu sais, on veut que justice soit rendue. Puis des fois, justice, c'est que les droits des accusés soient aussi respectés. Là. Donc, je pense que c'est pas incompatible. Mais c'est sûr que moi, personnellement, tu sais, j'ai fait du litige commercial, j'ai travaillé sur la commission Gomery, j'ai vu un peu l'envers de la médaille. Je me vois comme un procureur de la couronne. Mmh. Moi, j'ai intégré ce rôle-là, ça correspond à moi, puis à mes aspirations. Puis, moi, je trouve ça hyper excitant. Là, la quantité de décisions qu'on prend dans une journée comme procureur de la couronne, c'est impressionnant. Là. Finalement, on en prend pas mal plus de décisions que le juge sur le banc là, en termes de quantité. Puis, c'est des décisions qui ont un impact sur la vie des gens. On a le rôle de protéger la société, d'accompagner les victimes. C'est vraiment quelque chose qui a plusieurs facettes. Je pense que c'est un peu une mission. Les procureurs, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils voient cette mission-là d'accompagnement, d'obtenir justice, puis de mettre leurs habiletés au service des gens qui réussissent finalement à faire un bon travail puis avoir retiré beaucoup de satisfaction de ça.
Puis quand vous étiez plus jeune, est-ce que c'était vraiment ce côté-là qui venait vous chercher ou c'était plutôt le fait, moi, je vais aller plaider, je vais aller devant un juge, je veux que ça fasse changement justement à ce que j'avais anticipé comme première carrière d'aller travailler dans un cabinet, tu sais, d'être au niveau commercial. Là.
Super bonne question. Ça a été un peu des deux. Moi, tu sais, effectivement, dans le grand cabinet, tu sais, c'est des super gros dossiers, t'as des super avocats, t'apprends la stratégie, t'apprends une éthique de travail, aller au fond des choses, retourner toutes les pierres, ça, c'est des super outils. Mais pour aller à la cour régulièrement, pratiquer, faire des contre-interro, des plaidoiries, c'est beaucoup, ça arrive moins souvent, puis c'est tellement des gros dossiers que souvent, ils veulent que ce soit l'associé qui aille. Mm-hmm. Ils vont payer le gros prix, mais ils veulent l'associé qui a fait ses preuves, pas le junior qui va se faire les dents sur un dossier à 100 millions. Fait que c'est sûr que tu plaides moins souvent. Alors ça, c'est effectivement un point. Je voulais plaider beaucoup. Je voulais être à la cour, je voulais être dans l'action. Puis aussi, comme procureur de la couronne, on prend nos propres décisions. Tu sais, il n'y a pas personne qui nous souffle dans le cou et qui dit « Ah, là, il faut que tu fasses ci, ça, ça. » Non, non. Tu prends tes propres décisions, tu gères tes dossiers. C'est vraiment très satisfaisant à ce niveau-là. Puis le deuxième volet, je te dirais, à l'époque où j'avais commencé à travailler pour Stackman, j'avais joint les grands frères et grandes sœurs du Grand Montréal parce que c'est une organisation où tu parraines des jeunes. C'est quelque chose qui m'interpellait, puis je m'étais impliqué dans... Puis je suis encore en contact avec mon petit frère, d'ailleurs, qui est rendu ingénieur. Là. Mais puis ça, c'était un côté humain que je trouvais très valorisant. T'sais, oui, on avait une belle relation, mais cette relation-là m'apportait beaucoup. Puis je retrouve ça un peu aussi, t'sais, comme procureur à la couronne, t'sais, on accompagne les victimes, on rencontre des gens qui ont vécu des histoires épouvantables, là, t'sais, qui doivent venir raconter ça à la cour. Pas, souvent, c'est le pire moment de leur vie. On revit ça avec eux, on les accompagne. Il y a quelque chose qu'on retire des belles leçons de vie. Moi, j'ai vu des dossiers où tu dis, ah, la personne a pardonné malgré tout ça, des histoires de résilience incroyables. Fait que c'est un peu des deux. C'est vraiment le côté humain parce qu'on est avec les gens. Tous les jours, on est avec les gens, des gens qui vivent des situations horribles, dramatiques. Mais il y a des beaux moments dans ça. C'est ça qui est spécial. Puis, combiné au fait qu'on est toujours à la cour, on est toujours dans l'action, c'est très grisant. Mais il faut être fait pour ça. Mm-hmm. Parce que il y a beaucoup d'imprévus comme procureur à la couronne. Vraiment, là, mais on pourra peut-être en reparler plus tard.
Oui, vous avez dit que justement, vous travaillez avec des gens qui ont quand même vécu des grosses histoires. Puis est-ce que c'est quand même difficile pour vous de se détacher de ça après, mettons, votre journée de travail ou en général?
Oui, là, ben, là comme porte-parole, je ne suis plus à la cour. Là. Maintenant, je fais des relations avec les médias. Mais oui, c'est pas évident. On essaye de se détacher ou de se garder une espèce de barrière, mais ça nous touche toujours quand même. Puis le soir, on amène nos dossiers avec nous. Puis tu sais, les dossiers, c'est pas une journée, c'est terminé. Non, tu sais, ça dure pendant des mois, des années, des fois. Fait que ce contact-là, cette réflexion-là, c'est sûr qu'il y a une charge émotive qui vient avec. Faut faire attention à soi quand même, mais c'est sûr qu'on est touché. Tu sais, moi, il y a des dossiers qui m'ont marqué, puis qui me restent, qui m'accompagnent, puis qui font qui je suis maintenant, là, à ce point-là. Des dossiers que j'oublierai jamais, des scènes que j'ai vues, que j'oublierai jamais. Fait que oui, ça nous accompagne. Puis il faut qu'on soit vigilant parce qu'effectivement, il y a une possibilité qu'on en subisse des conséquences négatives. Mais tu sais, les procureurs de la couronne, on est tissé assez serré. Fait qu'on on parle beaucoup des dossiers entre nous. Il n'y a pas vraiment de tabou là-dessus. Fait que ça permet de relativiser, de prendre une distance qui est saine parce que c'est ça, on ne peut pas prendre tous les dossiers sur nos épaules. Puis il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas comme procureur de la couronne. C'est comment les gens vont témoigner, s'ils vont vouloir témoigner. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours trouvé difficile, c'est surtout dans les dossiers de violence conjugale. moi, dans, en début de pratique, je comprenais pas pourquoi moi je voulais plus que les victimes souvent. Je me disais, hey, mais moi, tu sais, elle veut pas témoigner contre lui, puis, mais là, il est dangereux, puis il va s'en tirer, puis je prenais beaucoup ça sur mes épaules. Puis je me disais, là, lui, il va s'en tirer, il va recommencer. Puis souvent, effectivement, c'est un cycle, hein, fait que la violence se reproduit. Puis à partir du moment que tu comprends ça, puis que tu acceptes ça, puis tu te dis, regarde, moi, c'est l'accompagnement. Je vais être là pour cette personne-là. Je vais la respecter dans ce qu'elle... Puis je me questionnerai pas pourquoi elle fait ça. De toute façon, les sentiments, c'est complexe. Mm-hmm. Fait qu'à partir du moment que tu acceptes ça, puis tu dis, moi, je lui fais le meilleur accompagnement. Puis si, ultimement, elle veut pas témoigner ou elle veut retirer sa plainte, comme on dit, ben, ce sera ça. Mais je serai là la prochaine fois en espérant qu'il y aura eu un cheminement. Fait que il y a ça aussi.
Ben, c'est vrai que ce côté-là de l'avocat irrationnel, c'est ce qu'on doit faire pour que ça fonctionne. On a les outils pour, mais de l'autre côté, c'est un humain qui, lui... parfois va laisser ses sentiments. Fait que quand même, bien qu'on sait c'est quoi la meilleure chose à faire pour lui, des fois, il nous écoute pas, mais ça fait partie, comme vous dites, du tout. C'est sûr que ça doit être quand même spécial à s'habituer avec le temps.
Mais on finit par s'habituer. Puis, tu sais, c'est une question d'expérience. Puis, il faut avoir, je pense qu'il faut avoir de l'empathie là, pour être un procureur, puis essayer de comprendre, mais sans juger, puis d'avoir se concentrer finalement sur ce sur quoi on a du contrôle, qui est nos efforts, l'accompagnement, puis notre expertise.
Puis j'ai retrouvé ma question d'il y a un peu plus tôt, là. On parlait que vous, là, plaider, ça vous parlait, puis vous aimiez ça aller à la cour. Est-ce que tout le monde qui nous écoute, qui ont un intérêt pour le droit criminel, mais qui ont peut-être une peur un peu là, de plaider, d'aller devant, ils doivent s'inquiéter puis changer de carrière, ou c'est quelque chose qui peut se travailler, c'est quelque chose qui est...
C'est quelque chose qui se travaille, c'est sûr. Ouais. La plaidoirie, tu sais, faire un bon contre-interro, là, moi, il y avait un juge qui m'avait dit il faut en faire au moins 100, il faut en avoir vu au moins 100 pour en faire un bon. Bon, peut-être pas, là. mais c'est la pratique qui nous rend meilleurs. Tu sais, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Il y en a qui partaient de très loin, que moi, j'ai vu, qui sont devenus excellents. Fait que c'est vraiment le travail, c'est regarder, se questionner, s'améliorer. Puis au DPCP, on a beaucoup de formations qu'on se donne à l'interne. Tu sais, on est le plus gros cabinet de droit criminel au Québec, là. Fait qu'on a notre propre équipe de formation. On a l'école des poursuivants. Alors, il y a des formations spécialisées dans tous les domaines de droit criminel, dans l'art des plaidoiries, l'art de la preuve, les procès dans le jury. Alors, tout ça, c'est des formations spécialisées qui donnent des trucs, puis il y a des formations pratiques. Puis d'ailleurs, même dans le stage, tu sais, c'est tellement intégré que les stagiaires qu'on a eus, ben, ils allaient à la cour, là, ils plaidaient, là, assez rapidement, là, dans une question de semaine. Puis, tu sais, on respecte le rythme des gens aussi, chacun est différent. Mais non, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Si c'est ça qui nous intéresse, si on a la mission de la justice à cœur, ça vient, ça va venir. Puis ceux qui ont finalement décidé souvent de changer de carrière, c'est ceux qui veulent un peu plus de prévisibilité. Parce que comme procureur, tu sais, nous, on doit donner toute notre preuve. Hein, c'est l'obligation de divulgation, on donne tout. Puis à la cour, ben, on ne reçoit rien. Fait qu'il faut être capable. Ce qui est le plus important, c'est la capacité d'adaptation. Tu arrives, tu as toujours des événements surprises, un peu souvent dans un procès, l'accusé amène un témoin surprise. Il faut que tu sois capable de gérer ça, de dire, regarde, je fais de mon mieux, j'anticipe, je reste flexible. Ça, c'est le plus important, à mon avis. Fait que c'est vraiment la capacité de se retourner sur un dissous, comme on dit, là, puis de pas se laisser... c'est plus ça, le plus important, parce qu'après ça, la plaidoirie, ça vient tout seul. Tu finis par même plus t'en rendre compte que t'es devant le juge, qu'il y a du public qui écoute. Ça vient naturel, je pense.
C'est pas comme dans les films non plus, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, là, des avocats plaider au bac, à moins qu'on ait la chance, comme là, cette année, dans notre cours de droit pénal, on a eu la chance de voir un appel. Mais, tu sais, ça peut arriver qu'on n'ait jamais vu ça avant le barreau, mais c'est pas comme dans les films que tu as une salle d'audience pleine puis que là, objection, mon honneur. Fait que, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus de la réalité?
La réalité, oui, ça arrive qu'on a des salles pleines. Tu sais, dans le fond, là, les responsabilités d'un procureur, de la couronne, PPCP, comme on dit, un procureur aux poursuites criminelles et pénales au Québec, il y a plusieurs volets. Le premier, c'est on reçoit la preuve de la police. Fait que les policiers, souvent, ils font leurs enquêtes. Il y a quelqu'un qui signale un crime. Les policiers font l'enquête, ils amassent la preuve. S'ils ont besoin d'aide, pendant ce moment-là, ils peuvent consulter un procureur qui va les aider. Ah, tu pensais faire ci, obtiens telle autorisation judiciaire. Bon. Une fois que la preuve est obtenue, ils envoient ça, on appelle ça une demande d'intenter des procédures et donne ça à un procureur. Le procureur, lui, il analyse la preuve. Puis nous, comme procureur, quand on analyse la preuve dans un dossier, bien, il faut qu'on ait suffisamment de preuves. Puis aussi, il faut qu'on soit capable de la faire admettre en preuve. On peut avoir de la preuve, mais si on n'est pas capable, avec les règles de droit, de la mettre en preuve, on a un problème. Deuxième élément, il faut qu'on s'assure que ce soit opportun. Si tu es dans l'intérêt du public puis de la justice de déposer des accusations dans un dossier. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui donne une pichenote à quelqu'un d'autre, techniquement, c'est un voie de fait. La preuve est là. Est-ce que ça serait opportun d'accuser quelqu'un pour ça? Fait qu'il faut qu'on se pose cette question-là aussi. Mm-hmm. Si ça fait 50 fois que le gars le fait, peut-être que oui.
Ouais.
Si c'est une fois, ben, peut-être que la réponse est non. Fait que ça, c'est le premier volet. Souvent, on va recevoir la preuve, puis on se rend compte, oh, OK, là, il me manquerait tel élément. Ça me prend une chaîne de possession des exhibits. Ah, peut-être qu'on aurait dû interroger tel témoin. Ou, fait qu'à ce moment-là, on peut faire des compléments de preuve. Fait qu'on demande aux policiers, pouvez-vous aller vérifier tel élément, obtenir tel élément de preuve? Une fois qu'on a eu tout ça, le critère qu'on utilise, c'est est-ce qu'on a une perspective raisonnable de condamnation? Si la réponse est oui, on peut déposer des accusations et c'est les procureurs qui choisissent quelles accusations. Alors, la manière d'accuser, les choix de est-ce qu'on va procéder par voie sommaire, par acte criminel, combien de chefs, quel chef, comment on va le faire? Alors, c'est notre responsabilité. Ensuite, on détermine le mode de comparution. Est-ce que c'est on fait émettre un mandat d'arrestation? Est-ce que ça va être une sommation? Puis, pour la suite, ben, on suit les dossiers normalement. Fait qu'on va les négocier une fois qu'ils sont à la cour. Puis, si on n'est pas capable de s'entendre, ben, il peut y avoir un procès. On fait le procès et la sentence. Fait que c'est vraiment, dans une journée, on peut faire de l'autorisation d'accusation, des rencontres de témoins, des rencontres de victimes, des conseils aux policiers, des procès, des enquêtes de caution, des enquêtes préliminaires ou ce qu'on appelle la salle à volume où on gère un caseload de dossiers qu'on fait avancer. On fait le suivi à la cour devant le juge. On peut négocier, régler des dossiers. C'est souvent là que ça se passe.
Ça, c'est surtout le volume. Là, ça, c'est est-ce qu'on envoie surtout les stagiaires, les jeunes procureurs faire ça dès qu'ils rentrent sur des PCP?
C'est une bonne idée de voir le volume en partant. Tous les procureurs font leur propre volume normalement. Là, ils font leur propre dossier puis ils les suivent. Ça dépend des districts. Ça peut diverger. Mais oui, c'est dans les premières responsabilités qu'on va confier à des stagiaires ou des jeunes procureurs. C'est effectivement de gérer le volume. Puis ça, c'est pas évident parce que tu gères des fois une centaine de dossiers dans ta salle. Toi, t'es tout seul, là, t'es le procureur. De l'autre côté, t'as peut-être 20 avocats de la défense. Puis là, tu négocies, tu sors, tu présentes ça au juge. Fait que t'es toujours, c'est des super journées, là. C'est intense, mais c'est très grisant. Tu connais tes dossiers sur le bout des doigts. Puis souvent, les juges se retournent vers nous. « Hey, couronne, qu'est-ce qui arrive dans tel dossier? Mm-hmm. La divulgation, est-ce que c'est complet? Avez-vous besoin d'une gestion dans mon bureau? » Fait que c'est vraiment, c'est un bon moment pour... Puis tu règles beaucoup de dossiers, fait que tu vois beaucoup de types de crimes différents. Qu'est-ce que ça vaut? Ça aussi, c'est une bonne question. Tu sais, qu'est-ce que ça vaut comme sentence? Bien, comme stagiaire, comme jeune avocat, c'est un passage vraiment important pour acquérir ces connaissances-là qui ne sont pas enseignées à l'université. Là, tu sais. Mm-hmm. Comment ça fonctionne? Puis en salle de cours, comme procureur, il n'y a pas de cours là-dessus. Là. Fait que tu l'apprends sur le tas, mais on n'envoie pas les gens. Là, ah, vas-y, bonne chance.
Bonne journée.
Souvent, les stagiaires, dans les premières semaines, vont accompagner puis vont faire de l'observation en salle de cours, des procès, du volume. Puis progressivement, on leur donne des responsabilités. Mais ce qui est le fun avec un stage à la couronne, c'est que tu plaines, tu es dans le feu de l'action. Là. Vraiment, là, tous les stagiaires que moi j'ai vus, ils ont fait leur procès pendant le stage.
Oui.
Puis à la fin du stage, ils sont opérationnels comme procureurs souvent. Là. C'est ça qui est assez flyé puis qui est particulier à la couronne. Je pense qu'on est, on doit être les avocats qui plaident le plus. Là.
C'est ça qui diffère des autres branches de droit, selon moi. Là, au criminel, tu te fais tirer littéralement dans la gueule du loup. Là. Tu t'en vas plaider dès le début. Puis aussi, par rapport justement au type de crime, là, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez choisir en tant que procureur de décider de faire « Ah, moi, je veux faire, par exemple, la violence conjugale, des agressions sexuelles. » Sinon, tu allais faire des dossiers d'assises, mais ça arrive plus tard avec l'expérience. Je sais
pas. Oui, bien, bonne question. Il y a effectivement plusieurs types de pratiques. Normalement, quand on rentre, les premières années, l'idéal, c'est de toucher au plus de choses possible. Mais après ça, effectivement, là, on peut se spécialiser. Il y a les affaires criminelles au DPCP, il y a les affaires pénales, le droit statutaire, comme le Code de la sécurité routière. Il y a les affaires de la jeunesse aussi. Mm-hmm. Alors ça, c'est les adolescents, là, entre 12 et 17 ans, s'ils commettent des crimes, c'est une équipe particulière devant le tribunal de la jeunesse qui traite ces dossiers-là. Fait que c'est sûr que la plupart des gens vont dans la branche criminelle. Puis dans la branche criminelle, effectivement, il y a de la spécialisation en crimes sexuels, crimes sur enfants, violence conjugale. Il y a des équipes spéciales, il y a des bureaux spéciaux aussi, comme le bureau de la grande criminalité qui va faire des dossiers d'envergure. Ça peut être du crime organisé, de la corruption, la cybercriminalité. des meurtres aussi. Puis il y a t'as des équipes d'assises, il y a des équipes de gangs de rue, par exemple, à Montréal. Il y a des équipes qui ne font que des appels. Fait qu'il y a vraiment, il y a des causes spéciales. Fait que oui, il y a plusieurs spécialités. Puis dans une carrière, on peut en essayer plusieurs. Moi, pendant 4-5 ans, j'ai fait partie d'une équipe de crime économique. Fait que tout ce qui était crime économique d'envergure, des projets provinciaux, la corruption aussi avec l'UPAC. Fait que ça, j'ai touché à ça pendant quelques années. Mais j'ai fait de la poursuite verticale, j'ai fait des dossiers d'agression sexuelle, des dossiers d'abus sur enfants aussi pendant 2 ans. Fait que on peut toucher à plusieurs types de pratiques, puis je pense que c'est une bonne chose parce que finalement tu vas chercher des cornes spécifiques là. Tu sais, chaque pratique a ses particularités. Tu sais, en matière de crime organisé, ben souvent c'est tout ce qui est écoute électronique, les autorisations judiciaires, tu viens très hot là-dedans. En matière de crime sexuel, ben c'est des règles de preuve très particulières aussi, hein, pour éviter les mythes et stéréotypes. Fait que vraiment chaque type de droit criminel qu'on fait a ses particularités qui peuvent être intéressantes.
Puis par curiosité, vous avez mentionné le fameux meurtre, ce que tout le monde s'imagine qu'on fait à tous les jours quand tu vas comme avocat criminel, ce qui n'est pas le cas, là. Est-ce que au DPCP, vous pouvez avoir des cas ou il faut absolument aller au tribunal, vous avez mentionné...
Pour les meurtres, il y en a dans tous les bureaux, là, des dossiers de meurtre devant jury. Ça, ces dossiers-là, ça peut être n'importe qui, techniquement, qui les fait comme procureur, là. Souvent, ça va être des procureurs avec plus d'expérience, parce qu'il y a des enjeux qui sont particuliers. C'est des règles de preuve devant jury qui varient. Il y a moins place à erreur là, quand on est devant jury. Alors, souvent, ça prend quelques années d'expérience avant qu'on puisse participer à un procès devant jury, comme deuxième chaise, des fois, qu'on appelle, ou troisième chaise, puis progressivement pouvoir le prendre. Mais il y a des équipes d'assises aussi. Tu sais, moi, à Montréal, il y a une équipe de procureurs d'assises, à Québec aussi. Alors, il y a des procureurs qui sont dédiés à ce genre de dossiers-là, qui en font quelques-uns par année, parce que c'est des dossiers qui s'étalent sur des mois. Alors, effectivement, ils en font beaucoup moins, eux, mais c'est... par opposition, par exemple, à ceux qui sont sur une poursuite qu'on dit verticale, là, qui, eux, peuvent faire des centaines de dossiers par année. Là.
Puis on s'entend que c'est pas le crime le plus courant.
C'est une minorité, effectivement, heureusement.
Oui, oui. Bon, on s'imagine tout le temps les gros, les plus gros crimes, puis en faisant le cours, puis en ayant travaillé un petit peu dans ce cabinet, on se rend compte que c'est pas nécessairement ce à quoi on s'attend. T'sais, c'est pas comme dans les films que c'est toujours des grosses histoires dramatiques. Des fois, c'est plus subtil, c'est plus des choses de la vie de tous les jours qu'on n'imagine pas, mais que c'est ça qui a le plus en volume là, niveau criminel.
Effectivement. Le gros, tu sais, des voies de fait simples, des menaces, des méfaits, des vols, c'est des crimes, c'est le gros des crimes. Mais il y en a vraiment. Des fois, moi, ce qui m'a surpris en devenant procureur de la Couronne, c'est voir à quel point il y avait beaucoup de crimes graves quand même. Tu sais, des crimes sur enfants, des crimes sexuels, qui font pas les manchettes, mais qui se ramassent sur nos bureaux. Il y en a quand même pas mal. Puis plus on s'éloigne en région, moins c'est rapporté. Mais le taux de crimes est grave et très élevé aussi. Ce qui fait que, tu sais, moi, j'ai commencé comme procureur de la Couronne à Joliette, qui est comme en banlieue de Montréal. C'est un endroit qui est réputé pour être assez élevé en termes de criminalité. Ce qui était le fun, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dès le départ, là, on m'a dit, regarde, vas-y, là, t'as un caseload, puis des gros dossiers, puis tu te fais les dents sur des dossiers très importants. Fait que ça, c'est le fun aussi parce que tu acquiers l'expérience à la vitesse grand V là, quand tu es en région surtout.
Ben c'est ça. Selon moi, c'est la meilleure manière d'apprendre, de commencer rapidement puis d'en faire puis d'en voir et non de passer 6 ans à comme... Ben, ça dépend des personnalités, mais moi, selon moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant en droit criminel, c'est qu'il y a possibilité de commencer rapidement.
Entièrement d'accord.
Puis ça me surprend ce que vous venez de mentionner comme quoi qu'il y a quand même beaucoup de crimes graves. On dirait que dans ma tête, j'étais comme, ah, ben... Finalement, il n'y en a pas tant que ça, mais...
Ah non, il y en a beaucoup. C'est surprenant. Là. Moi, ça me surprend toujours. Puis quand j'en parle autour de moi, ils tombent un peu en bas de leur chaise aussi. Là, moi, je peux parler surtout dans les dernières années, à Joliette, une grande prévalence de crimes sexuels, crimes commis sur des enfants, des crimes historiques aussi, qui sont passés dans les années 70, 80, 90, qu'on poursuit aujourd'hui. Puis Joliette, ça a été un château fort des motards pendant une certaine période. Alors, il y a un héritage criminel aussi entre organisations criminelles, les batailles, de la violence qui était assez prévalente aussi.
Puis là, je ne sais pas si on peut en parler, là, au pire, je le couperai, mais en parlant de motards, là, est-ce que ça a eu un impact là, ces temps-ci avec la fameuse guerre Enfin, je suis pas vraiment ça.
La violence mais dans l'Est.
Ben là, j'ai vu les Hells avec la Blood Family, puis là, il y en a un qui est en... qui vient de se faire attraper, oui, je pense.
Ouais. Ben, c'est des bonnes questions. Tu sais, je peux pas trop en mentionner, mais ce que je peux dire, c'est oui, il y a eu une augmentation des crimes de violence, surtout dans l'Est, mais les ressources policières ont été mises en place.
Ouais.
La collaboration, tu sais, les policiers, le DPCP, ça travaille main dans la main quand même, là, tu sais, quand vient le temps de gérer ce type de criminalité-là. Fait que la réponse est à la mesure de la situation. Là, on est en contrôle, on a des procureurs spécialisés, tout le monde, tout est mis en place pour vraiment contenir et rétablir l'ordre.
Fait que, tu sais, il y a un côté d'actualité que, en tant que procureur, ben, on voit des nouvelles, puis on est comme, ben, ça nous touche directement,
ah,
on
oui.
est dans l'actualité, on est...
Mais ça, c'est un bon point. Tu sais, là, comme porte-parole, je le vois encore plus, là, mais il doit pas y avoir d'organisation publics qui sont aussi dans les médias que le DPCP. Mm-hmm. Moi et mes collègues porte-parole dans la dernière année plus que 2300 demandes médias sur des dossiers. Puis ça, c'est il y en a qui s'en vont directement au procureur, fait que c'est beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Tous les jours, on est dans les médias, tous les jours on donne des entrevues, nos dossiers, c'est ça, ça captive les gens, hein, tu sais. Alors on est toujours dans l'œil du public pour ça.
Puis ça doit être un autre côté. Là, vous avez mentionné que vous faites principalement que ça maintenant, là, parce que ça doit être quand même un enjeu de comment la société voit la justice, comment on représente ça, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Fait que ça doit être pour ça que j'imagine que là, vous vous concentrez sur ça, puis on gère ça d'une façon spéciale, parce que n'importe qui ne peut pas aller dire n'importe quoi. Ça a quand même des impacts au bout de la ligne.
Exactement. Tu sais, dans les procédures criminelles, il y a la règle qu'on appelle le sub judice, tu sais, qui fait que lorsque les procédures sont pendantes, on n'a pas le droit de commenter publiquement, hein, parce qu'on veut pas compromettre l'impartialité puis l'équité du procès. Alors, on est très limité dans ce qu'on peut dire dans les médias. Puis souvent, ben, on est finalement à la merci un peu de comment c'est perçu, des impressions, de ce qui est rapporté. Parfois, c'est rapporté partiellement. Puis on se rend compte que ça peut nuire un peu à la confiance du public, parce que le public est souvent sous l'impression que ça va mal, la justice. Puis, mais c'est parce que souvent, ils vont entendre une partie d'un dossier où ça n'a pas été optimal. Mais dans 99% des dossiers, là, justice est rendue, les gens sont satisfaits. Puis, tu sais, quand je dis satisfait, il n'y a pas personne qui crie victoire puis qui est content, parce qu'un crime a été commis, puis
c'est
ça, il n'y a rien à faire. Il est commis, on ne peut pas en venir en arrière. Mais malgré tout, le système, il fonctionne. C'est juste que c'est pas nécessairement ça qui est mis de l'avant, qu'il y a
c'est
des
ça.
Centaines de dossiers aujourd'hui qui vont se régler de manière très satisfaisante, puis où justice va être rendue. C'est peut-être le dossier où le juge a posé des questions. C'est ça qui va être retenu.
Mm-hmm.
Fait que ça fait partie un peu de notre rôle, justement, d'aller au-devant puis de donner l'information qu'on peut donner. Si on peut pas commenter, ben, tout le moins, maintenant, on veut donner de l'information juridique pour essayer de faire comprendre. Puis c'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait notre balado qui s'appelle Procureur. Et là, je fais ma plug.
Ben oui, certainement!
Alors, Procureur avec un S sur YouTube, Spotify et Apple. Et ce balado-là, tu sais, c'est vraiment la première fois où le DPCP on donne accès aux procureurs, mais d'un point de vue personnel. Fait que c'est des procureurs qui viennent parler, finalement, de dossiers marquants, de dossiers qui ont eu un impact sur leur vie, positif ou négatif, parfois, puis qui expliquent pourquoi. Puis c'est quoi les décisions qu'ils ont dû prendre, qui n'ont pas été rapportées dans les médias, que le juge a peut-être même pas su, mais qui ont eu un impact, finalement, sur la justice. Fait qu'il y a plusieurs exemples comme ça, puis on est chanceux. Première saison, 4 procureurs ont accepté de se livrer. Ça prenait du courage, quand même, tu sais. On a 2 procureurs de Québec, d'ailleurs. Un qui est venu nous parler là, du chauffeur Légaré qui avait embouti la voiture puis tué 4 personnes en 2022. Puis le dossier aussi du pasteur Guillaume qui violentait, puis qui abusait, puis qui torturait des enfants, finalement. Alors, les deux procureurs viennent nous raconter des moments qu'ils ont vécu dans le cadre de ces dossiers-là, mais qui n'étaient pas à la cour, là, puis qui n'ont pas été rapportés dans les médias, des moments humains où on s'est senti vulnérable, tu sais, comme procureur. Ça nous arrive aussi de se sentir vulnérable, il faut accueillir ça. Fait que ça, c'est un côté autre, tu sais, les choix difficiles qu'on peut être appelé à faire, ben ça nous permet aussi de montrer au public, tu sais, vous savez, les procureurs, c'est pas comme dans Indéfendable, tu sais. On n'est pas des fonctionnaires méchants qui s'en foutent. Non, les procureurs vont travailler le soir, ils pensent à leurs victimes, ils pensent à leurs dossiers, ils veulent le mieux, puis ils ménagent pas les efforts. Mais souvent, ils doivent faire des décisions difficiles en droit, que le côté humain est déchiré, mais qu'on doit prendre. Puis c'est ça qu'on vient expliquer aussi. Tu sais, des fois, là, les gens disent « Ah, comment ça se fait qu'ils ont fait un 810 dans un dossier? » Tu sais, un 810, c'est une ordonnance d'un peace bond qui appelle, là. Tu sais, c'est souvent, il y a une accusation, puis on va la transformer en 810. C'est un engagement de ne pas troubler la paix. Bien, souvent, ces décisions-là, là, c'est à cause de demandes, c'est ça, c'est réfléchi, c'est souvent c'est les victimes qui nous demandent ça, puis souvent nous autres on le dira pas pour ménager la dignité des victimes, fait qu'on passe un peu dans l'œil du public pour ça, ouais, ben ils ont abandonné les procédures, non mais c'est plus compliqué que ça, ouais. Tu sais, il y a des enjeux parfois de vie des gens, tu sais, des décisions, faut qu'on fasse des choix pour les protéger, tu sais, c'est souvent un peu, fait que le balado va nous permettre d'expliquer un peu ça, dans la mesure où c'est des dossiers généralement qui sont terminés, qui ne sont pas en appel, où on n'enfreint pas la règle du sub judice. Puis évidemment, on consulte les victimes au dossier, puis les proches des victimes aussi, quand les victimes sont décédées, là. Donc,
pour tous les étudiants qui s'y intéressent au droit criminel, c'est vraiment intéressant, puis je vous conseille vraiment d'aller écouter ça, parce que ça permet d'avoir une meilleure... connaissances, puis tu sais, c'est avec ça qu'on apprend l'expérience des autres aussi, puis c'est ça qui peut nous donner une meilleure idée de, tu sais, il y a personne de mieux placé que vous pour nous expliquer c'est quoi
vraiment,
c'est quoi votre réalité, fait que...
Puis tu sais, tantôt, tu soulevais un bon point, je sais pas si c'est toi, Émile, ou c'est toi, Maïla, mais tu sais, c'est difficile de se faire une vraie idée de c'est quoi le travail de procureur, puis la chance que les étudiants peuvent avoir, c'est que les palais de justice sont ouverts à tout le monde. Il y a des causes en droit criminel tous les jours au palais de justice de Québec. Vous pouvez juste vous rendre au palais de justice, aller au greffe, regarder les salles à volume ou les salles de procès de criminel. Vous vous asseyez dans la salle puis vous regardez. À moins qu'il y ait des ordonnances de huis clos, quand des enfants témoignent ou des choses comme ça, vous allez pouvoir être là puis voir comment ça se passe, tu sais. Les interactions entre la défense, la couronne, le juge, comment on règle les dossiers, comment c'est présenté. Ça, c'est un gros avantage. Moi, je connaissais pas du tout le droit criminel non plus, puis la pratique, la réalité de la pratique. C'est ça, j'aurais aimé ça. J'avais pas pensé à ça pendant mon bac d'aller voir ça, mais maintenant que je sais tout ce qui se passe là, c'est vraiment un super endroit pour apprendre beaucoup sur la réalité de notre système de justice.
Ben oui, puis pour l'avoir vécu moi-même, là, d'être allé faire plusieurs stages d'observation, seulement une journée, aller voir, par exemple, comment se déroule un procès, c'est vraiment intéressant puis très formateur au niveau pratique, parce que, tu sais, en tant qu'étudiant, nos cours en droit criminel, je pense qu'ils sont limités à un cours obligatoire puis trois
ça
cours
arrive
options.
Ça la deuxième année aussi, exactement. Fait que ça arrive quand même tard.
Pour le barreau, tout le monde nous dit... De prendre des cours qui sont plus traités plus tard au barreau, puis les cours de droit criminel sont un peu plus mis de côté, je dirais. Donc, pour vraiment aller voir sur le terrain, c'est vraiment intéressant d'aller au palais, puis vous le dites très bien.
C'est ça qui est spécial un peu des procureurs de la couronne, c'est que vous dépendez de la victime, vous dépendez des policiers, vous dépendez de beaucoup de personnes. Mm-hmm. Fait, comme on parlait un petit peu plus tôt dans les médias, des fois, il y a des situations qui terminent d'une façon, puis c'est pas nécessairement votre faute, même si vous saviez tout ce que vous auriez pu faire, mais vous dépendez quand même d'une petite chaîne de personnes.
Oui, puis on dépend aussi, c'est intéressant, parce que c'est la première fois qu'on me le fait remarquer comme ça, mais les procureurs, on est un peu au centre de ce qui se passe dans la justice criminelle, parce que, d'une part, ben, les policiers font les enquêtes, ils nous amènent la preuve. Fait qu'on gère déjà une relation avec les policiers. Ensuite, il faut qu'on gère la relation aussi avec les victimes puis les témoins. Alors, ça aussi, il y a ce lien-là. On a la chance d'avoir le CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes de criminels, qui travaille main dans la main avec nous, justement, pour faire un accompagnement des victimes. Ensuite, on a le juge, qui, lui, est comme un peu l'arbitre, puis qui nous donne des règles du jeu, puis qui rend des décisions, des fois, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ensuite, on a la défense, qui est comme notre adversaire, puis son client. T'sais, souvent, les gens se représentent de plus en plus seuls, mais c'est toujours une meilleure idée qu'il y ait un avocat. Dans son intérêt à lui, mais dans l'intérêt de la justice en général. Oui. Puis il y a aussi notre organisation qui est comme un peu un coach, tu sais, qui va nous donner des directives, des manières de faire, des outils de travail. Alors oui, on est comme au centre de cette espèce de... Puis il y a les médias maintenant. Mm-hmm. Depuis la pandémie, les médias sont capables d'assister à distance aux causes. Alors l'œil du public est constamment là. Alors nous, on regarde tout ça, puis on garde l'objectif indépendant de ne pas se faire influencer, que ce soit par le public, le politique, les médias, puis de faire notre travail consciencieusement, de manière impartiale. T'sais, on analyse le droit, puis la preuve, puis on rend notre décision basée uniquement là-dessus.
Ça peut-tu arriver des fois que, par exemple, l'opinion publique vient chercher certains procureurs, dans le sens tu sors d'une salle de cour, tu as direct des caméras qui sont pointées sur toi, surtout dans les causes très médiatisées, là, ça doit quand même être difficile pour certains procureurs, challengeant, exact.
Oui, non, c'est sûr que ça, c'est un élément parfois qui peut être difficile, mais tu sais, une des valeurs de notre organisation, c'est le courage. Puis c'est un peu ça, c'est de prendre des décisions qu'on sait qui sont justes, en droit, qui sont dans l'intérêt de la justice, mais qui sont pas populaires. Ça, c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire, effectivement. Mais on le fait, ça fait partie de la job. Quand on est capable de l'expliquer, on l'explique. Si on peut pas, ben c'est comme ça. Tu sais, si, par exemple, je vous donne un exemple fictif, là, mais moi, j'ai un accusé, bon, qui a commis un crime grave. Ça peut être du crime organisé. Le gars, bon, ça vaudrait une peine quand même assez sévère, mais il décide de collaborer avec la police, ça devient un informateur. Ça, je peux pas dire ça à personne. C'est un privilège absolu. Tu sais, je peux pas révéler ça à personne. En contrepartie du fait qu'il collabore, ben, il pourra avoir une peine moins grande. Mais on ne pourra pas le dire au juge que c'est parce qu'il s'est rendu un informateur. Fait que dans les yeux du public, ils vont peut-être dire « Ah, mais là, tu parles d'une peine possible. » Oui, mais c'est parce qu'il nous aide à régler pas mal d'autres dossiers là, qu'autrement, on n'aurait pas pu puis obtenir justice. Fait que ça, c'est un exemple fictif que je vous donne, là, mais où finalement, le public n'a pas tout le portrait. Puis il faut prendre la décision d'assumer et d'avoir l'air un peu de dire ouais, ils sont pas sévères, puis ils deal, ben, arabais. Puis, ouais, mais non. Il y a beaucoup de choses souvent que le public ne saura pas. Fait que ça fait partie un peu justement de la pression qu'on peut avoir. Puis des fois aussi de l'incompréhension. Tu sais, il y a chaque victime réagit différemment. Il y a des victimes, moi, que j'ai eues qui me disaient, tu sais, moi, mais Bastien, l'important, c'est que vous m'ayez cru. Même si vous ne l'accusez pas, ça ne me dérange pas. Vous m'avez cru, je vous ai rencontré. Pour moi, c'est suffisant. Il y a des victimes que, ben, moi, juste le fait qu'il ait été accusé, même s'il était acquitté, c'est suffisant. J'ai dénoncé. Il y a quelqu'un qui m'a entendu, j'ai pu le dire publiquement. Puis il y a des gens que, eux, il faut absolument que ce soit une condamnation, puis absolument une peine. Puis que, mais il n'y a jamais une peine qui va remettre les choses en état, là, tu sais, ultimement. Fait que oui, il y a cette pression-là aussi de dire, ben, t'sais, on veut faire plaisir aux victimes. T'sais, c'est sûr que moi, je préfère que les victimes soient satisfaites, mais c'est pas ça non plus le travail. Le travail, c'est que justice soit rendue. Voilà.
C'est super intéressant. Puis comme vous avez un... Ça, c'est un autre rôle des procureurs qu'on n'a peut-être pas conscience, mais de négocier avec le criminel, de justement... l'information, tu sais, vous avez un rôle à jouer là-dedans, si vous devenez informateur.
Tu sais, notre système, on a un système, tu sais, qui fait un peu... sur la prémisse que la plupart des dossiers vont se régler. T'sais, entre 80-90% des dossiers se règlent par des plaidoyers. Puis si c'était pas le cas, le système serait pas capable d'absorber. Là. Mais c'est comme ça. Le système de common law, on recherche, t'sais, c'est une recherche de compromis. Le juge, c'est un arbitre, puis il doit dire, OK, bon, là, les gens s'entendent, parfait. C'est sûr que ça a des points positifs en termes d'efficacité. On règle beaucoup de dossiers avec pas tant de ressources que ça. Mais si on compare à d'autres systèmes juridiques criminels ailleurs dans le monde, sont plus fondés sur le droit civil, où là, c'est plus la recherche de la vérité, ben les dossiers se règlent beaucoup moins. Là. Les juges veulent aller au fond des choses parce que c'est ça leur mission. Là. Ils sont inquisiteurs. Pis... Alors, c'est deux philosophies très différentes à ce niveau-là. Il y en a-t-il une qui est meilleure que l'autre? Je ne sais pas.
C'est une autre chose que le public ne peut pas nécessairement comprendre. T'sais, nous, on en parle quand même au bac, pis, mais on continue à voir ça aussi dans la réalité du marché du travail. Mais il y a un enjeu des deux côtés. Il faut faire un choix. Quel est le meilleur? On fait notre possible. Puis, tu sais, souvent, moi, quand les gens m'en parlent puis qu'ils sont comme, ben voyons donc, je suis comme, ben, t'as-tu une idée pour que ce soit plus parfait, toi? Genre, ça peut pas être parfait. C'est impossible. Exact. Déjà qu'on ait réussi à trouver quelque chose qui fonctionne autant bien puis qu'on est capable d'en faire autant. Parce que c'est complexe, là, le nombre. Comment organiser un système juridique qui s'applique à tout le monde puis qui peut faire le bonheur de plus de monde possible? Et c'est complexe, là.
C'est vraiment pas évident. Puis un des avantages de la common law, c'est que les juges, ils ont une flexibilité par la jurisprudence pour faire évoluer le droit. Ce que des systèmes civils n'ont pas nécessairement. Tu as un code qui prévoit tout. Puis la common law, ben, c'est la jurisprudence des juges qui est évolutive. Fait que normalement, ça peut suivre l'évolution des valeurs de la société dans l'interprétation des lois puis l'application des lois. Mais effectivement, il n'y a pas de système qui est parfait, ça c'est sûr, là, mais on peut toujours l'améliorer. D'ailleurs, tu sais, notre système, au fil des années, la place puis l'accompagnement qu'on a fait aux victimes a grandi beaucoup. Là, on a eu la Charte des droits des victimes qui est entrée en vigueur. Alors, l'accompagnement des victimes, parce que le procureur, il ne représente pas la victime. Hein, il représente le roi, mais ça veut dire la société. Fait que c'est sûr qu'on a gagné en accompagnement, puis ça aide à la confiance des gens. Là, s'ils savent qu'ils vont avoir un bon accompagnement, qu'ils vont avoir des mesures adaptées à leur situation personnelle, c'est sûr qu'on gagne là-dessus. Mais voilà.
Je trouve ça beau, vraiment. Si on enchaîne avec une petite question pour vous, là, ça ressemble à quoi une journée typique d'un procureur là, au DPCP? Est-ce qu'il y en a une journée typique?
Ben, il y a plusieurs journées typiques. Okay. Je te dirais, ça dépend du type de poursuite que tu as, mais de manière générale, si je prends un procureur en poursuite verticale, fait que ça, c'est un procureur, mettons, là, dans le district de Joliette, où moi, je travaillais, mm-hmm. on avait peut-être entre 500 et 700 dossiers par année, nouveaux dossiers qui rentraient. Fait que tu as des journées de cours prévues qui sont des journées à volume. Des fois, c'est une ou deux journées par semaine. Puis tu as des journées de procès que c'est une à deux journées par semaine. Alors, souvent, tu as une semaine où tu as du volume, l'autre semaine, tu as des procès. De manière générale, tu as une journée de préparation de procès avant ta journée de procès. Puis, tu as aussi des journées d'autorisation de détenus. Fait que ça, tu es dans ton bureau, puis là, les policiers arrivent avec des gens qui ont arrêté dans la nuit ou la veille ou la journée même, qui disent « Regarde, on l'a arrêté sur le fait, on a exécuté un mandat, on te l'amène. » Fait que souvent, c'est d'autoriser des accusations la journée même. Fait que là, c'est en urgence, les gens sont détenus. Parce que les policiers, quand ils arrêtent quelqu'un, ils peuvent aussi le remettre en liberté. Mais si le crime est trop grave, ou si la personne a beaucoup d'antécédents, soit qu'on veut, ou qu'il est susceptible de se sauver, ou de recommencer, ou que le crime est trop grave, on veut le garder détenu généralement. Mais ça reste l'exception, la détention. Mais dans ces journées-là, c'est là qu'on traite ces dossiers-là. Fait que le procureur va conseiller les policiers, déposer des accusations pour les accusés de détenus, ces journées d'autorisation-là. Sinon, soit il est en préparation de procès, soit il est en procès, ou il fait des salles de journées à volume. Puis souvent, dans les journées à volume, tu fais aussi les enquêtes caution. Fait que là, tu fais tous tes dossiers que tu connais, tu les négocies, tu présentes des suggestions communes ou tu les fixes à procès. Puis t'as les gars ou les filles qui arrivent détenus, puis là, tu fais soit des enquêtes caution ou tu rapportes les dossiers. Fait que c'est...
Enquête caution, c'est enquête
sur remise en liberté. Okay. Ouais. Enquête sur cautionnement, enquête caution, enquête sur remise en liberté, c'est toute la même chose. Okay. Fait qu'on tient aussi ces enquêtes-là. Ça, il faut que ça soit fait très rapidement, généralement. Mm-hmm. Quelqu'un qui est arrêté doit comparaître dans les 24 heures s'il est détenu. Alors, ça, c'est comme une pratique assez... C'est assez grisant, là, parce que là, tu as des dossiers, puis là, il faut que tu t'autorises. Puis là, si tu regardes ton délai de 24 heures, il faut que tu analyses vite ton dossier, tu autorises tes chefs, tu fais comparaître. Fait tu sais, quand je disais on prend beaucoup de décisions, là, tu sais, tu prends la décision, est-ce que j'autorise? Est-ce que j'ai besoin de plus de preuves? Est-ce que je remets en liberté? Est-ce que je négocie? Est-ce qu'on fait un procès? Fait que toutes ces décisions-là, c'est des décisions qui sont judiciaires ou quasi-judiciaires. Là. Fait qu'un procureur, il faut qu'il soit en mesure de prendre beaucoup de décisions importantes puis rapidement. Tu peux pas dire, ah, je vais penser ça pendant une semaine. Non, le gars, il est détenu là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le remets en liberté ou pas? Puis il faut que tu sois capable de justifier aussi pourquoi je le garde détenu. Puis si je le remets en liberté, qu'est-ce que ça va être quoi les conditions qu'on va lui imposer? Pour protéger les victimes, s'assurer qu'ils soient présents à la cour. Fait que c'est un ensemble de facteurs. Il faut être capable de prendre des décisions vite, puis on les assume.
Ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment... C'est juste ça, j'étais même pas au courant qu'un procureur de la couronne pouvait... Ben, faisait ça, dans le fond. Fait que c'est super intéressant. Puis, est-ce que ça vous arrive de rencontrer aussi les accusés ou...
Oui.
Oui. Mais mettons, autre que dans ce cas-là, là, admettons, dans le cadre d'un procès, vous travaillez beaucoup avec la victime, puis les témoins autres, mais est-ce que parfois vous...
Ben oui, ben, au début, je pensais que tu me parlais dans ma vie privée, mais oui, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des accusés dans la vie privée. Je pourrais vous en raconter un
dans d'autres. Oui.
Mais puis ça, c'est toujours spécial comme procureur, parce que on s'en prend finalement, tu sais, dans la vision des criminels, souvent, on est comme un peu leur ennemi. Là, oui. On veut soit qu'il y ait une amende, des travaux, la prison, fait que on a des intérêts souvent qui convergent pas avec ce qu'eux souhaitent. Mais dans le cadre d'un travail à la cour, oui, il y a beaucoup de gens qui se représentent seuls, puis on fait affaire directement avec eux. Puis moi, j'ai toujours eu le réflexe de dire, tu sais, il faut pas personnaliser le débat. Mm-hmm. Puis c'est ça que je disais aux stagiaires aussi. Tu sais, moi, quand je croise dans le palais de justice, parce qu'un palais de justice est rempli d'accusés, là, tu sais, à part une prison, l'endroit où il y a le plus de criminels au mètre carré, c'est probablement les palais de justice. Fait que quand tu te promènes dans le palais et t'en croises, moi, j'ai toujours été très courtois, puis je me suis toujours fait un devoir d'être le plus courtois possible avec les accusés, parce que, d'une part, c'est pas personnel, puis d'autre part, moi, je crois fermement que plus on va les traiter de manière respectueuse, plus ils sont susceptibles eux-mêmes de se comporter de manière respectueuse. Mm-hmm. Puis ça s'est toujours bien traduit pour ça, puis j'ai déjà même eu des avocats de défense qui m'ont dit « Hey, Maître Bastien, mon client m'a dit que tu l'avais salué ce matin, tu avais demandé comment il allait. Moi, je voulais qu'il rentre en prison plus tard dans la journée. » Il a dit « Ça l'a vraiment... vraiment touché, puis je dis, ben c'est ça, moi j'en veux, moi j'ai rien contre ton client, là. Il a commis un crime, je porte pas de jugement sur lui, il a commis un crime selon moi, puis il doit avoir une conséquence, mais c'est tout, c'est juste là que ça s'arrête, puis il y a beaucoup de gens qui se représentent seuls. Alors, on doit négocier avec des gens qui se représentent seuls. On a un rôle. Tu sais, quand on est procureur de la couronne puis on a face à nous un accusé qui se représente seul, il faut qu'on l'aide un peu. C'est ça. Tu sais, il faut qu'on... Tu sais, c'est pas « Ah, je vais essayer de l'avoir ». Non, non, c'est pas ça du tout. Tu sais, moi, je veux... On va lui rappeler qu'il serait mieux servi par un avocat, qu'il a droit à ci, qu'il a droit à ça, que, tu sais, on peut négocier avec lui, mais qu'il est pas obligé, que, tu sais, c'est... Alors, On est très précautionneux quand vient le temps de négocier avec des accusés parce qu'on veut s'assurer que leurs droits sont respectés aussi, qu'ils comprennent, puis qu'ils sont le mieux outillés aussi pour faire valoir leur point de vue parce que des fois, ils peuvent avoir des bons arguments. Puis ça, comme procureur, il faut toujours être prêt à se remettre en question. T'sais. Est-ce que, la défense m'amène une nouvelle preuve ou j'ai un nouvel élément de preuve qui surgit? Est-ce que j'ai encore une conviction que j'ai une perspective raisonnable de condamnation? Faut qu'on soit capable de se remettre en question. Moi, c'est déjà arrivé que j'ai eu des éléments de preuve qui m'ont été apportés par la défense qui me rendaient impossible que le crime, tu sais, comme un alibi. Là, tu fais, OK, mais comment ça se fait que...
C'est ça, on peut s'en parler aussi de,
ben oui, on peut en
du
parler.
Fait que ben, des fois, ça peut être du côté de la poursuite, pas des procureurs, mais des victimes qui, finalement, c'est peut-être pas les victimes, mais ça doit pas être courant, mais ça peut arriver.
C'est pas courant, mais moi, ça m'est déjà arrivé, des dossiers où je me suis rendu compte, finalement, que, tu sais, on sait jamais pourquoi, puis est-ce que c'est un malentendu, mais finalement... Je suis convaincu que le crime n'est pas commis. Puis il y a des accusations dans ce temps-là. Première affaire qu'on fait, c'est qu'on enlève les accusations. Mm-hmm. Pour moi, le système de justice, il va échouer si un innocent est déclaré coupable. Pour moi, ça, c'est la pire chose. Puis je suis convaincu que pour tous les procureurs de la Couronne, c'est la pire chose. Moi, c'est quelqu'un qui fait une fausse plainte, il n'y a rien qui m'horripile plus que ça. C'est une manipulation du système. Les impacts pour les gens sont très graves. Ouais. Et pour moi, de manière générale, quelqu'un qui fait ça, ça prend une peine. Bien, on appelle ça une entrave à la justice ou un méfait public. Ça prend une peine.
Il y a des conséquences.
Il y a des conséquences criminelles. Là. Faire une fausse plainte, les conséquences, ça peut être la détention, là, la prison. Puis, non, c'est très sérieux. Fait que nous, on reste toujours vigilants. T'sais, on veut éviter les erreurs judiciaires, ça c'est clair. Alors, on garde toujours une ouverture, puis on se re-questionne toujours. Si on a des nouveaux éléments de preuve, que ce soit les policiers, nos témoins, les victimes ou la défense, on les prend en compte, puis on analyse, puis on s'assure d'avoir toujours une conviction, d'avoir une perspective raisonnable de condamnation.
C'est pour ça que j'imagine que le point de vue des fois de la défense peut être intéressant parce
ben
que
oui.
ça peut...
Ça non,
peut...
Moi, je suis toujours, mais ça a toujours été la même chose. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les avocats de la défense parce que leur travail est hyper important. Puis souvent, ils ont des informations précieuses à nous transmettre. Alors oui, puis...
Au final, c'est un travail, tu sais.
Ben oui, c'est un travail
pas personnel non plus entre
ben avocats de... Ben non, faut pas rendre ça personnel. Non, ils font un travail super important. Moi, j'adore travailler avec des avocats de défense. Tu sais, ils connaissent leurs clients. Souvent, ils ont des pistes de solutions auxquelles on n'avait pas songé parce qu'ils connaissent mieux leurs clients. Puis souvent, la plupart du temps, tu sais, ils veulent que leurs clients s'en sortent. Ils veulent qu'ils se réhabilitent, là. Mm-hmm. Alors, ils sont là pour leurs clients. Mais ils sont quand même, tu sais, quelqu'un qui finalement se réhabilite puis comme il n'y a plus de crime, tout le monde est gagnant.
Des fois, ils le sont. Tu sais, parce que j'ai travaillé un petit peu dans un cabinet de la défense, puis j'en parlais beaucoup aussi de la perception de c'est comment, tu sais, travailler avec un criminel. Puis l'avocate qui me parrainait un petit peu, elle m'a mentionné que le nombre de clients qu'elle ne croyait pas en eux puis qu'elle ne serait pas à l'aise de le laisser dans son entourage ou de d'être avec lui. C'est rarement arrivé. Il y en a peut-être eu trois dans sa carrière qu'elle ne croyait pas vraiment en eux, mais le nombre de clients que ça répète, son frère qui a fait une connerie, qui regrette tellement, puis que c'est une leçon de vie, puis que ça n'arrivera plus. Parce qu'il y a certains crimes que c'est des crimes, mais ça pourrait arriver à ton frère, à ton cousin, à ton père, puis que c'est pas nécessairement. Fait que c'est ça qu'elle me disait. Bien, c'est sûr que le domaine de pratique qu'ils font fait en sorte qu'ils ne côtoient pas nécessairement des gros crimes. Grave, là. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que ces genres de personnes-là sont peut-être moins... à récidiver, etc. Ouais. Mais c'est ça qu'elle me disait. Il y a beaucoup de ses clients qui croient en eux puis qui faisaient confiance puis qu'elle serait à l'aise d'être dans... Tu sais, mettons que... Ben, là, je sais pas si exactement elle serait à l'aise de ça, mais tu sais, qu'il soit chez nous puis je serais pas stressée qu'il me vole, ou tu sais, dans le sens que... C'est pas toutes des mauvaises personnes, même
non,
si certaines personnes font des erreurs. Mm-hmm.
Non, mais effectivement, ça peut arriver à pas mal tout le monde là, d'avoir une mauvaise passe, de commettre un geste, de regretter, que ce soit. Puis que la personne puisse se réhabiliter, même réparer le geste qu'elle a fait. C'est sûr que comme société, on gagne là, à diminuer le taux de récidive. puis je suis un peu d'accord avec ta collègue, tu sais, des vrais prédateurs irréchappables, dangereux. Dans ma carrière, j'en ai peut-être vu, je sais pas, une douzaine, une quinzaine. Il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, des gens qui disent, cette personne-là, là, dès qu'il sort, il va violer quelqu'un, il va refaire ci, il va tuer quelqu'un.
Il y en a.
Mais il n'y en a pas tant que ça. Mm-hmm. C'est une minorité, heureusement. Là.
Puis, tu sais, c'est intéressant de savoir que c'est pas tous les avocats de la défense qui. C'est leur rêve de défendre des gens comme ça. T'sais, c'est pas nécessaire de savoir
mais non.
ça.
Mais moi, je suis curieux. Est-ce que elle. Parce qu'il y a plusieurs philosophies, là, tu sais, comme avocat de défense. Est-ce que dans sa pratique, elle. Elle voulait savoir si elle voulait, est-ce qu'elle voulait avoir la version du client ou elle voulait pas. Est-ce que
oui, elle écoutait beaucoup les clients. Puis ce cabinet-là où je travaillais, ben, il parle beaucoup avec la couronne. Là. Moi, c'est ça que je suis vue une avocate, puis elle, c'est quasiment, ils saluent, ils jasent un peu, pas nécessairement de droit, mais dans le corridor, ils jasent, puis ils se connaissent, puis c'est un travail, puis j'ai pu aller en cours, avec, puis assister à une rencontre d'un client, puis tu sais, le client, c'était mon premier que je voyais à vie, puis j'étais comme, mon Dieu, j'espère que ça va bien aller, puis tu sais, genre, je croyais en lui, moi aussi, puis je voyais un peu de mon entourage en lui, puis tu sais, fait que ça a comme rapporté un côté humain parce que moi-même, je me demande un petit peu ce que je veux faire. Est-ce que je vais être du côté de la couronne, côté de la défense? Il y a des trucs personnels dans ma vie qui sont arrivés de mon entourage que j'ai vu, puis je suis comme, tu sais, c'est important. Les deux côtés sont importants parce que quand tu connais la personne, puis tu sais, tu connais un peu plus le reste, ça te fait voir une autre perspective. Mais tu sais, dans les deux côtés, il y a des pour et des contre, là. Mais je sais qu'ils écoutaient beaucoup les clients. Ils sont vraiment aussi sur tu me dis la vérité, je veux tout savoir, compte-moi pas de mentir. Mais tu sais, dans la cause que j'ai faite avec l'avocate, c'était vraiment quasiment pas une petite maman, mais comme elle traversait quelque chose de gros pour le client avec lui. C'est lui, il avait fait une erreur malheureusement, mais tu sais, elle était aussi en support, puis c'était pas t'es assis dans le bureau, il y a l'avocate, il y a le client, écoute-moi, je te parle, c'était une discussion, puis elle l'écoutait, puis je trouvais ça beau, ce côté-là, puis c'était pas nécessairement ce que je m'imaginais, mettons, de la défense. Ouais,
mais c'est un bel accompagnement aussi, finalement, des accusés, hein, parce que c'est pas nécessairement évident non plus, surtout quand t'as jamais passé dans le système, un accusé qui fait face au système, c'est vrai que ça peut être impressionnant, déstabilisant. Fait qu'avoir un avocat qui est là, c'est sûr que ça facilite le passage.
Ben oui, puis tu l'as dit tantôt, mais là, il y a comme une conception du droit criminel que tu vas d'un côté ou de l'autre.
Ouais, mais
c'est
quoi?
Ta couronne ou à la défense. Puis il y a comme l'aspect moral aussi, j'ai l'impression que ça imbrique là-dedans. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, tu sais, moi, je n'irai pas la défense parce que ça va contre mes valeurs de défendre un criminel. Mais tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Tu l'as très bien dit, il faut que tu vois plus le côté qui est humain là-dedans. Pis j'ai l'impression que, excusez-moi, que c'est là-dessus qu'il faut vraiment se pencher parce que c'est très important de voir les deux côtés de la médaille.
Mm-hmm. C'est pas toujours tout noir ou tout blanc, des deux côtés, j'imagine.
Oui, non, c'est deux types de pratiques aussi complètement différents. Tu sais, gérer les clients, mais la facturation, les mandats d'aide juridique, c'est un autre volet. Il faut être fait pour ça, là, parce que il faut que tu te fasses payer aussi comme avocat, là, de la défense.
On en a pas assez parlé.
C'est un autre volet aussi. Il faut être conscient de ça.
Oui, excellent. Ah ben c'est super intéressant. T'sais, je m'intéresse vraiment à ce monde-là, même que j'ai fait des démarches pour en voir un peu plus, puis j'apprends tellement de choses, fait que je trouve ça passionnant. J'espère que vous aussi, vous aimez ça, tout le monde. T'avais-tu une petite question? Ou
ben moi, il y avait une petite question que je me posais en tant que procureur, là, le fait que justement la divulgation de la preuve, ça soit tellement un enjeu maintenant, aujourd'hui. Comment ça vient vous toucher personnellement, de jour à jour, de voir tout divulguer à la défense, puis c'est vraiment tout maintenant, là, fait que...
Oui, effectivement, mais tu sais, il faut garder en tête que, tu sais, la divulgation, c'est l'État, tu sais, c'est la police, c'est les ressources de la police, fait que la police, elle a des ressources, fait que tu sais, pour obtenir la preuve, la police a des ressources généralement pour l'obtenir. Maintenant, ce qui a changé beaucoup depuis, je sais pas moi, 7-8 ans, c'est qu'on s'assure d'avoir une divulgation complète de preuves avant d'autoriser. C'est ça la principale différence. Avant, on pouvait autoriser des accusations, puis il pouvait nous manquer des chaînes de possession, mais on savait que ça allait venir ou demander des compléments de preuves. Mm-hmm. Maintenant, à cause de l'arrêt Jordan, on veut s'assurer que dès le départ, quand on signe les accusations, on a toute la preuve en main, on la donne toute. Même que dans certains cas, moi, dans des gros dossiers d'enquête, je faisais ma divulgation de preuves par les policiers au moment où on arrêtait la personne, puis il y avait une promesse de comparaître qui était donnée. Fait que comme ça, la personne, elle a la preuve même avant de comparaître à la cour. Mm-hmm. Fait que ça, tu sais, c'est des manières de faire qui fait que finalement, on est capable de rendre le processus encore plus efficace au niveau de la gestion des délais. Mais c'est sûr que ça fait partie de la game. On a des grosses ressources avec les policiers. On a beaucoup de preuves. On est l'État. Mais c'est sûr que le fardeau, c'est hors de tout doute raisonnable. Il n'y a pas d'autre type de droit où on a un aussi gros fardeau. Tu fais du droit civil, c'est la balance des probabilités. Et le juge a besoin de te croire à 51%. Mmh. Quand tu es un procureur de la couronne, ton fardeau, il est pas mal plus élevé. Là. Mm-hmm. Et la défense, elle a juste besoin de soulever un doute raisonnable. Pas un doute farfelu, là, mais raisonnable. À partir du... Fait que c'est un gros fardeau quand même. Ouais. Fait que la divulgation, déjà qu'on donne toute notre preuve, que la défense nous donne pas la sienne, puis qu'il faut rencontrer ce fardeau-là, c'est quand même... C'est quand même un bon contrat. Mm-hmm. Mais la raison est simple, c'est parce que contrairement au droit civil, la conséquence, c'est pas pécuniaire c'est uniquement, ça. C'est peut-être la privation de la liberté.
Ouais.
Fait que, puis ça, on veut s'assurer vraiment qu'on a la bonne personne qui a commis le crime.
Puis en même temps, en tant que procureur, moi j'imagine que ça l'aide à mieux dormir le soir parce que tu sais que peu importe ce qui arrive, s'il y a une sentence, s'il y a un verdict de culpabilité, ben vous savez que il y a une raison pourquoi il est là. Dans le sens que c'est pas peut-être que crime finalement, c'était-tu un innocent? J'ai regretté cette cause-là? T'sais, non. Si ça s'est rendu là, c'est qu'il y avait les preuves hors de tout doute.
Effectivement, là-dessus, c'est sûr que ça nous aide. T'sais, on n'a pas cette préoccupation-là, mais on a quand même des préoccupations. T'sais, des fois le soir, tu dis hey, là, j'ai-tu. Est-ce que j'ai mettons qu'on accepte de remettre un accusé en liberté, mais on sait, mais il va-tu retourner, il va-tu faire ci, tu sais, il n'y a pas de risque zéro. Puis ça, c'est quelque chose, c'est qu'on prend nos décisions, puis des fois, on se dit, hey, j'espère que je prends la bonne décision. Tu sais, on n'a pas, il n'y a pas un guide qui dit, oui, voilà, tu as, à 100%, tu as pris la bonne décision, il y a zéro risque, il arrive quoi que ce soit, non. Fait que ça, oui, ça nous suit un peu, tu sais, des fois, on se dit, hey, là, son avocat m'a convaincu, il va faire ci, il va faire une thérapie, mais hey, j'espère. Tu sais, ça nous reste toujours dans la tête, j'espère qu'il n'arrivera pas quelque chose. Puis des fois, malheureusement.
Oh. Ouais, il a perdu.
On peut la recommencer. Ouais, as-tu perdu? Ben, fonctionne-tu encore?
Oui, oui. Une seconde. OK. Pour partir, là, j'espère.
Parfait. Fait que, oui, fait que des fois, ce qui arrive, c'est que, tu sais, on se pose des questions. Est-ce que j'ai pris de la bonne décision? Est-ce qu'il y a un risque qui se passe de quoi? Puis malheureusement, ça arrive des fois. Là, mais il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas garder tout le monde détenu en se disant au cas où. Il faut appliquer les critères juridiques puis finalement se limiter à ça.
Puis vous êtes des humains, vous aussi.
Oui.
Fait que c'est normal. Excellent. Puis un peu plus tôt, là, vous aviez parlé, quand on parlait des accusés, là, vous avez une petite anecdote, moi, elle ne m'a pas sortie de la tête.
On va entendre ça.
Écoute, ça doit faire, ça fait pas loin d'une dizaine d'années, à mon avis. J'étais au gym, puis là, je m'entraîne dans la section des poids, à une époque où j'en faisais beaucoup. Puis il y a un gros gaillard qui me regarde dans la section des poids, puis qui me dévisage. Puis là, je me dis, boy, OK, bon, lui... Parce que nous, on poursuit tellement de gens qu'on ne se souvient pas de tous les visages. Mais d'habitude, les accusés, ils se souviennent des visages des procureurs qu'ils ont fait condamner. Puis là, je trouve que le gars, il me dévisage, puis il n'y a presque personne dans le gym. Là. Tu sais, je me dis, bon, là, OK.
Je prends-tu un poids propre?
Là, je me dis, bon, ben là, je vais crever l'abcès. Il me dévisage, un grand gros, là, tu sais. Fait que je m'en vais le voir. Fait que je dis, hey, bonjour, est-ce qu'on se connaît? Puis là, il me dit, êtes-vous procureur de la couronne? Là, je me dis, shit, là, je me serre les poings. Puis je dis oui. Puis là, il me dit, bon, ben, il me tend la main, puis je veux vous remercier.
Hein?
Là, je dis, pourquoi? Il dit, vous êtes le procureur dans mon dossier. Vous m'avez accusé. Là, je me dis, OK, là, c'est bizarre. Là. Fait qu'il me tend la main, je serre la main. Je dis, pourquoi vous me remerciez? Il dit, ben parce que il y a 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus, ça faisait déjà plusieurs années. Il me dit, vous m'avez donné une chance, puis je l'ai saisi, puis vous avez cru en moi, puis j'ai changé ma vie. Puis là, je dis, OK, mais peux-tu me raconter un peu? C'est un gars qui, tu sais, quand tu dis faire une erreur à un certain moment, c'est un gars qui se séparait de sa conjointe, puis... À un moment donné, pendant la séparation, ils sont dans l'appartement, puis il lui fait une menace, puis il dit, tu sais, c'est lui qui se fait laisser, évidemment, il est dans tous ses états, il lui dit qu'il va lui faire payer, puis il donne un gros coup de poing dans le mur, puis quand même, il fait un trou dans le mur, puis il était peurant, le gars, puis il a fait peur, fait que elle appelle la police, se fait arrêter. Le gars, ultimement, il plaide coupable. Mais tu sais, j'ai un beau profil de gars, il avait un problème de consommation, de boisson, problème de gestion de la colère.
Mm-hmm.
Puis moi, avec son avocat, on avait négocié, puis j'avais dit, moi, il m'avait dit, c'est un événement isolé, il fera pas ça. Puis moi, j'ai dit, écoute, moi, si ce gars-là, il est capable de faire une thérapie de gestion de la colère en ce moment, puis il fait des meetings de AA, ben on s'en reparle. Fait qu'on s'était donné quelques mois, il était allé faire la thérapie, il avait fait des meetings de AA, puis finalement, on lui avait donné une absolution conditionnelle avec des travaux communautaires. Pour moi, c'était un dossier comme un autre, puis comme je traite tous les dossiers. Mais je n'avais pas réalisé à quel point lui, dans sa vie, dans sa perspective, ça avait eu un impact. Lui, puis son avocat lui avait probablement bien présenté aussi. Il avait dit, tu sais, vous avez cru en moi, vous m'avez donné une chance, j'ai arrêté de boire, j'ai fait une thérapie de gestion de la colère, j'ai réalisé que j'avais plein de problèmes enfouis depuis longtemps dans ma gestion de la colère. J'ai une nouvelle femme, j'ai un enfant, j'ai une job, ça va bien. Puis je pense en partie grâce à vous. Là, je m'étais dit, oh, ça m'avait touché. Puis ça, tu sais, quand on parle des moments marquants, ça, moi, ça m'a accompagné après ça. Tu sais, je me suis dit, OK, bon, mais finalement, je peux avoir aussi un impact positif dans la vie d'accusé. Tu sais, mon objectif, T'sais, c'est d'assurer la sécurité du public, c'est que les victimes soient protégées, que le crime soit puni, mais aussi qu'on ne revoit pas idéalement ces gens-là mm-hmm. devant la cour. Fait que ça avait été un beau moment. Puis j'en ai eu d'autres, t'sais, des moments un peu spéciaux mm-hmm. comme ça, mais dont une accusée qui, après un dossier où elle avait plaidé coupable, m'avait demandé si on voulait aller prendre un café. Alors je lui avais dit non. Je l'avais remercié quand même. Mais tu sais, des moments un peu farfelus comme ça peut arriver aussi. Là, mais,
une petite date après.
Ouais, une petite date avec une accusée. J'avais poliment décliné, là.
Mais, oh mon Dieu! Ouais. Hey, mais ça, c'est un aspect qu'on ne se rend pas compte, mais même moi, je suis comme full touchée. On dirait que vous avez un impact positif dans. Parce que tu sais, des fois, il y en a que ça prend une petite tape ses mains pour se réveiller. Mm. Puis en étant un humain, un procureur humain qui comprend ça, ben oui, vous lui avez donné la petite tape qu'il avait besoin, mais vous avez quand même donné une chance de se réveiller, puis il a pris sa chance. Fait que c'est beau. Tu sais, ça revient à. Quand on disait plutôt, tu sais, des fois, hey, j'espère que j'ai pris la bonne décision, ben c'était un moment-là de faire comme, wow, tu sais, hey, j'ai-tu bien fait? Peut-être que s'il était allé en prison, ben il aurait été en fâché contre la justice, il aurait rien travaillé, il aurait ressorti, puis là, ben vous aviez pris la bonne décision, puis ça allait changer une vie, tu sais, c'est vraiment
effectivement,
beau. Là.
Effectivement.
Wow, ça m'émeut.
Moi aussi.
Après ça, j'avais une petite question, un peu dans les anecdotes. Là, on a quand même dépassé le 1 heure déjà, mais c'est tellement intéressant, c'est que j'ai pas le goût d'arrêter. Là. Moi, j'aimerais ça savoir, ben tu sais, ça en est un peu un exemple, un moment marquant, mais votre moment de carrière que vous êtes dit comme « je suis à la bonne place, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait aujourd'hui », puis qui vous a marqué dans votre carrière?
Hey, j'en ai plusieurs, mais pis t'sais, c'est bizarre parce que comme procureur la couronne, là, on reçoit pas beaucoup de remerciements. Pis on fait pas ça pour avoir les remerciements puis de la gratitude, parce que t'sais, on accompagne des gens qui vivent des périodes, qui ont vécu des événements traumatisants. Repasser dans le système de justice, souvent, c'est vraiment pas facile. Puis t'sais, on est là pour eux, puis on s'attend pas à ce qu'ils soient là pour nous. Mm-hmm. On fait parce que moi, c'est ma mission, puis ça me tient à cœur. Puis ma valorisation, je la tiens du fait que moi, j'aide, puis que je collabore à ça. Mais les quelques moments où j'ai reçu des remerciements, là, ça m'a. Je suis fondu en larmes, mm-hmm. carrément. Là, ça m'est arrivé. T'sais, j'ai deux exemples en tête, là, mais il y en a un. C'était une femme dans la vingtaine, mais qui avait une déficience intellectuelle qui faisait qu'elle avait l'équivalent de 12 ans. Puis elle avait été abusée par... Elle avait été adoptée quand elle était jeune, puis elle avait été abusée par le conjoint de sa mère biologique. Parce que quand elle était adulte, elle avait voulu revoir sa mère biologique, puis elle allait la voir la fin de semaine, puis le conjoint de cette mère biologique-là l'abusait, mais de manière épouvantable, toutes les fins de semaine. Puis, à cause de sa déficience, c'était difficile d'exprimer, mais elle avait fini par réussir à le faire. Puis, tu sais, moi, on avait eu des rencontres avec elle, puis sa mère adoptive, puis, tu sais, c'était vraiment pas évident, là, parce que, tu sais, il faut avoir les aménagements. Là, j'étais allé chercher de la preuve de neuropsychologue pour être capable d'expliquer, voici, là, tu sais, quand elle témoigne à la cour, le fait qu'elle rit, c'est pas parce qu'elle ment, ou c'est mm-hmm. elle est comme ça. Fait que, tu sais, vraiment... Puis ça avait tellement bien été, d'une certaine manière, que le gars avait accepté de plaider coupable, finalement, après l'enquête préliminaire. Puis il y avait eu une peine de pénitencier, quand même, pour ces gestes-là. Puis suite à ça, puis la mère avait pris le temps de m'écrire une longue lettre de remerciement. Puis là, je vais faire attention pour pas devenir émotif.
Oh! Ça, wow!
Mais... Wow. Puis, c'est ça, je m'excuse.
Mais non c'est tellement problème. Beau.
C'est ça, mais là, vous me posez des questions tough. Là.
Mais oui, non, mais moi aussi, je vais pleurer, Colin, ça me
mais
touche.
Mais oui, puis ça a été une longue lettre, puis elle m'avait parlé de l'impact que ça avait eu chez sa fille. Puis, je m'excuse.
Mais non, mais non ça, hey, c'est tellement beau, là.
Puis elle m'avait fait un beau dessin, puis je l'ai encore. Oh. Puis ça, c'est dans les choses qui m'ont marqué, je m'excuse.
Wow, c'est vraiment...
C'est très touchant.
C'est vraiment touchant. Là, on est tous dans le studio, les yeux pleins.
Ouais, vous n'avez pas vu le choix. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas qu'on ait des remerciements trop souvent.
Mais
là,
non,
c'est ça.
Mais ça, je dois avouer que... ça. C'est là que tu te rends compte que c'est pour ça qu'on fait ça, puis c'est pour ça qu'on est important, puis on change la vie des gens. Oh, on dirait que ça m'emballe le cœur, là. C'est vraiment beau.
Mais futur procureur, peut-être?
Peut-être.
C'est un très beau travail, oui. Puis vous pouvez vraiment en être fier de ce que vous avez accompli, puis de ce que vous continuez à accomplir.
Puis c'est beau de nous le partager, puis je suis sûre que ça va toucher beaucoup de gens, puis que ça va interpeller des gens, parce que veux pas, on est toutes des personnes humaines qui fait ça pour aider les autres, parce qu'on a un sentiment à l'intérieur de nous qu'on est capable de faire la différence pour les gens, on est capable de les aider, puis ça, c'est... Mm-hmm. Vous avez eu le jackpot avec
ça. Oui, c'est la mission. T'sais, on fait ça pour la mission, vraiment, là.
Wow, vous changez des vies, puis ça, c'est vrai, puis ça peut... Moi, je trouve qu'il n'y a pas un plus beau métier que ça, là. Ouais.
Je suis entièrement d'accord, vraiment. Puis si on aime l'action, on aime les défis, on veut être à la cour, plaider, faire une différence, là.
Être dans l'émotion aussi.
Dans l'émotion, oui. Ouais. Puis c'est la vraie vie, tu sais, c'est les gens. Puis moi, c'est ça qui m'a marqué quand je suis devenu procureur. Tu sais, moi, je considère que je viens d'un milieu privilégié. Puis tu sais, j'ai été exposé à plein de gens qui n'ont pas eu de chance, qui ont vécu des histoires épouvantables. Puis être capable de dire, regarde, moi, avec mes capacités, mes habiletés, je me mets à leur service. T'sais, c'est vraiment le service public, là, ouais. Aider les gens puis faire une différence dans leur vie.
Puis avez-vous, je sais pas moi, des conseils pour peut-être les étudiants qui nous écoutent pour le droit criminel, le métier de procureur?
Ben, c'est sûr que déjà s'intéresser, si quelqu'un veut avoir un impact dans la vie du monde, c'est un super travail, mais ça se traduit de plein d'autres manières. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit, moi, ultimement, j'aimerais être procureur à la couronne, mais je pense qu'il faut varier ses expériences, faire du bénévolat, s'impliquer. Mm-hmm. Tu sais, oui, il y a les connaissances techniques, les cours, puis tu sais, ça ne nuira pas de faire un DESS en droit criminel spécialisé en plus. C'est sûr que ça, c'est des cartes de plus à ajouter, mais... Puis c'est intéressant à plein de choses. Il y a des procureurs de plein de profils différents dans notre organisation qui ont eu des parcours qui sont complémentaires, mais complètement différents. Fait que varier les expériences. Puis, tu sais, pour se préparer, mais moi, je pense qu'aller au palais de justice, regarder des procès, regarder comment ça marche, c'est une super bonne idée. Regarder notre podcast procureur aussi, très bonne idée. Mais sinon, je pense qu'il faut... puis il faut apprendre à se connaître aussi, puis accepter de les occasions qui se présentent, sauter là-dedans. Tu sais, au DPCP, on participe maintenant à la course au stage, qui n'était pas le cas à mon époque. Mm-hmm. Puis ça, c'est un bon moyen aussi, bon, de rentrer. Parce que si on a un stage, c'est sûr qu'il y a plus de chances après ça d'être engagé comme procureur. Puis les stages, c'est vraiment, là, tu sais, c'est... On dit ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend tout un bureau de procureur pour élever un procureur, selon nous. Là. Puis quand on rentre à la couronne, normalement, tous les procureurs là, t'sais, vont embarquer. On va être exposé à plein de types de pratiques, de styles de procureur, style de contre-interrogatoire, style de poursuite. Ça, c'est super intéressant. Mm-hmm. Fait qu'aller voir des procès de différents procureurs, de différents types de dossiers. Puis voilà.
Excellent.
C'est des très bons conseils.
Vraiment. Moi, là, bref, je sors d'ici tout mêlé.
On t'en met en question, toi, là.
Mais les étoiles dans les yeux, je trouve vraiment que c'est intéressant. Après, je suis peut-être biaisée, mais je trouve que c'est le plus beau de mes épisodes. Je le trouve très vrai, très humain, très intéressant. Fait que j'espère que vous allez aimer autant que moi. Est-ce que vous avez un petit quelque chose à rajouter ou on a pas mal fait le tour? On pourrait ajouter. Moi, je pourrais continuer pendant des heures et des heures, mais le devoir nous appelle. Fait que ça ferait le tour.
Ben, bonne chose à une fin.
J'ai tout ce que j'ai à dire, c'est à quel point on est chanceux de vous avoir aujourd'hui. Ouais. Les étudiants peuvent se sentir chanceux également. Puis je trouve qu'avec votre expérience, puis vos histoires, puis vos anecdotes, justement, ça vient apporter un bagage qui est très formateur pour les étudiants. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Merci encore d'être venu aujourd'hui.
Hey, merci beaucoup de votre intérêt. C'est super le fun. Puis on recommence ça quand vous voulez.
Excellent. Ben, merci beaucoup.